archipéliens sont parmi nous.
Nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Emptine ce soir. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Alors vous allez nous parler d'artistes que vous aimeriez sans doute voir mieux représentés dans l'archipel de la médiathèque Voice Crack. Ou je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce exactement.
Moi, je pense, oui.
Oui, hein. À l'anglaise. Ce sont des Suisses pourtant.
Ce sont des Suisses et ils font partie de ces Suisses qui sont assez allumés dans la manière de faire, que ce soit au niveau plastique, au niveau musique. Alors effectivement, ça c'est des œuvres fondamentales pour tout le projet Archipel et s'ils ne sont pas plus présents actuellement dans la plateforme telle qu'elle existe, c'est question de temps aussi. Il faut écrire, il faut examiner, il faut trouver des choses à dire. Alors ici, on présentera un disque de 98 où Voice Crack, c'est deux musiciens, Andy Gould et Norbert Mosling. Et là, ils sont à deux. Après, ils ont fait une discographie excessivement complexe et étendue avec des autres partenaires, d'autres musiciens. Et là, ils sont sur leur formule la plus originale. Ils jouent ce qu'ils appellent de l'électronique quotidien, donc Cricket Everyday Electronics. Donc c'est des téléphones, c'est des cafetières, c'est des tourne-disques, c'est des machines qu'on a dans notre environnement quotidien. Au niveau de la classification archipel, on mettrait ça évidemment dans le bruit par rapport à l'esthétique, la forme que ça prend, dans le corps, parce qu'on va voir que le son de la machine, ils les mettent en résonance avec l'empreinte des machines dans notre propre corps, dans la manière de jouer avec, dans la manière de connecter les réseaux électroniques, je veux dire des machines, les ondes, les moteurs et les réseaux neurologiques de l'imaginaire, si je peux parler comme ça. Et alors aussi l'îlot utopie, un pied dans l'îlot utopie, parce que dans cette fusion entre les machines et le corps et l'organisme humain, il y a une part d'utopie dans la manière de montrer comment les choses s'emboîtent et fonctionnent. Et donc, ils ont créé une sorte de grand laboratoire, atelier laboratoire, où, en quelque sorte, ils font feu de toute machine qu'il peut avoir dans notre quotidien, des choses qu'on utilise tous les jours, donc qui sont des prothèses de nos organismes, de nos manières de faire, de nos actes quotidiens.
Des instruments, hein, c'est,
oui,
c'est vraiment
des
ça.
Des vrais instruments, des prolongations, des choses qui nous permettent d'agir, de gérer le quotidien, dont on oublie les composants, dont on oublie l'esthétique, les sons, le visuel. Et donc, ils travaillent avec tout ça pour les faire chanter, les faire crier, les démantibuler, les connecter. Donc, c'est une réflexion aussi sur quelle est notre relation à toutes ces machines qui peuplent notre quotidien. Alors, il y a un film qui les montre à l'action, un film de Peter Lichty. Nous avons ça aussi à la médiathèque. On les voit agir. Donc, on voit l'atmosphère, on voit cette chose impalpable, immatérielle qui les lie aux machines à travers leurs gestes très concrets, leur modus operandi très physique. Et en même temps, les images n'évacuent pas le mystère, n'expliquent pas comment se font ces choses-là. Donc, c'est intéressant de voir que l'image documente et en même temps enrichit le côté énigmatique de cette manière de faire. Donc je propose d'écouter la première plage de cet album sorti en 1998.
Thank you.
Extrait de l'album Below, Beyond, Above de ce duo Voice Crack que vous nous présentez, Pierre Emptin. Alors il faut rappeler que c'est en 98 que vous est parvenu cet enregistrement et que donc à l'époque c'était quelque chose de tout nouveau et de
oui,
très étonnant.
Ça nous a vraiment surpris. Donc il faut savoir qu'on avait à l'époque des réunions professionnelles d'écoute tous les mois avec des conseillers qui sélectionnaient des nouveautés. On était rassemblés à 15-20 pendant une journée à écouter des nouveautés avec un appareil critique, etc. Et donc, c'est dans ces réunions-là qu'on a écouté ça pour la première fois. Et donc, comment traiter une musique qui est faite avec des appareils électroménagers. Ici, il n'y a pas d'ordinateur. Après, c'est des gens qui ont fait du sampling, qui ont enregistré, retraité. Je crois qu'ici, c'est brut. Donc, ils jouent avec en déclenchant des ondes, en utilisant les sonneries des appareils, en utilisant les moteurs, les bruits que le fonctionnement des choses peut engendrer. Donc, c'est assez brut. Donc, on a vécu depuis lors des choses plus bruyantes qui sont arrivées. Le monde aussi s'est complexifié au niveau de l'environnement sonore. Donc, il y a peut-être un effet d'émoussement, peut-être pour nous qui le connaissons depuis 1998, il faudrait voir quelqu'un qui le découvre maintenant, quel effet ça fait. Ça fait moins agressif qu'à l'époque. Et c'est en trouvant cette dimension-là qui est plus hospitalière, je vais dire, par rapport à ce bruit de machine, que j'ai envie d'en reparler ici dans une émission. Je veux dire, à l'époque, ça faisait un peu... On percevait surtout une espèce de critique du bruit des machines, une critique de la présence des machines. Ici, je crois qu'il y a beaucoup plus une rencontre avec la machine. Alors ça revient sur les musiques de robots, les musiques d'automates, bien que ce soit une version particulière, ce n'est pas une musique robotique telle qu'on les connaît, parce qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements, il y a beaucoup de discontinus, d'hétérogènes par rapport aux musiques robotiques, mais enfin, il y a quand même pas mal de ces choses-là. Et ça rejoint alors aussi toutes les réflexions de l'homme sur les choses et sur son fonctionnement à lui, puisque... Il y a toute une tradition de la pensée humaine qui a commencé à réfléchir à comment fonctionne l'homme, comment fonctionne son organisme, son cerveau, en travaillant avec des automates, en faisant fonctionner des automates et en regardant les gestes, en essayant de reproduire des gestes chez des automates. C'était une réflexion sur comment nous on fonctionne, comment notre corps fonctionne. Peut-être que par comparaison, mieux caractériser cette musique de Voice Crack, on pourrait faire une comparaison avec la musique de Pierre Bastien, écouter quelques minutes et voir un peu les différences et où se situent pour permettre de mieux caractériser cette musique de Voice Crack.
Alors on écoute Pierre Bastien, mais après il faut que vous nous parliez
musique machinale
de ce Pierre Bastien. Mais on écoute d'abord. Et là, avec Pierre Bastien, on est vraiment dans la musique de machine, mais avec, a priori, des instruments de musique qu'il détourne et qu'il relie à tout un système de fonctionnement automatique.
Oui, ça, c'est fascinant d'imaginer toute sa réflexion, tout son fonctionnement. Donc, il imagine d'abord une musique, des instruments. Il imagine, lui, la technique, il la connaît, comment on utilise l'instrument. Et il doit transmettre cette technique-là à des automates qu'il construit avec des moteurs et le jeu mécano. Et ces automates-là actionne les instruments pour exécuter la musique que lui a entendue et qu'il veut que cette petite orchestre machinale, le mécanium comme il l'appelle, reproduise la musique qu'il a dans sa tête. Donc il transfère à ses instruments automatisés, mais de manière artisanale, avec ses machines qu'il a conçues lui-même, de manière très précise. Vous pouvez écouter 10 fois le même morceau que le même instrument, ils vont faire tip-top à la... Et lui, en plus, à certains moments, dans certaines prestations, il joue. Il a un jeu scénique où il joue sur les ombres des instruments projetés derrière lui, avec un travail de lumière, avec des ombres aussi sur sa manière d'être corporelle dans ces instruments-là, dans cet orchestre. Donc, par un jeu d'ombre, il y a une interpénétration entre son organisme et ses automates-là.
Donc, lui joue avec cet orchestre. Alors,
oui, il joue de la trompette, aussi la petite trompette souvent bouchée. Sur ce disque-là, en tout cas. Et donc, on est là dans une facture encore assez classique de l'automate, de la transmission aux automates d'une volonté qu'on veut leur voir exécuter. Donc, quand on les voit jouer comme ça, c'est un côté aussi un peu fantomatique. Comment la pensée, comment la musique qu'on a dans une tête s'est transférée à des machines qui l'exécutent, qui la transmettent et qui font fonctionner des instruments de musique. Donc, c'est un côté magique, voir Pierre Bastien, soit simplement en exposition d'installation, dans une exposition ou encore mieux en mini-concert, c'est vraiment d'une grande poésie. Et ça fonctionne avec les adultes et les enfants, c'est assez surprenant.
Ça veut dire qu'il compose un répertoire pour cet orchestrion, on pourrait dire.
Oui. Et l'orchestre change en fonction du morceau de musique. Ça
D'accord.
peut être tout un jeu de percussions orientales, ça peut être des instruments percussions bois africaines, ça peut être un mélange, il y a des instruments à cordes. Donc il y a vraiment une diversité. Il a une discographie d'une dizaine de titres facilement maintenant avec ça. Donc il a composé beaucoup, il continue, il travaille, il reste dans ce filon-là avec beaucoup toujours de rigueur, de précision. Alors, il y a peut-être, quand on écoute dans le fond, un côté somnambulique qui peut rapprocher, qu'on peut entendre ici et aussi dans la musique de Voicecrack. Mais on est évidemment dans quelque chose de complètement différent, ne fût-ce que Voicecrack, ce n'est pas vraiment des automates, ils jouent avec des machines. Et donc, il y a un échange entre les machines et il y a une interpénétration beaucoup plus grande entre ce qu'est cet environnement de prothèses électroniques et la manière dont on fonctionne. Donc, c'est pour ça que je parlais de reconnaissance de la machine, c'est plus simplement... Moi, je transmets à la machine et il y a plus dans la musique de Voicecrack, il n'y a plus cette distinction claire entre moi, je suis homme et toi, tu es la machine. C'est autant la machine qui fait sonner l'homme que l'homme qui fait sonner la machine. Donc, il y a ce climat d'échange. À quoi m'a fait aussi penser d'une manière plus médicale tout un travail d'un artiste cinéaste, vidéaste allemand, Christophe Keller, qui retravaille des films médicaux de l'hôpital La Charité en Allemagne. Mais du 19e siècle et du 20e aussi, qui a continué pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et là-dedans, il y a des films, ce qu'on appelle les films médicaux. Donc, et on voit d'abord un travail de prothèse, comment fonctionnent des prothèses. Donc là, on est dans le travail d'automate à la Bastien. Et puis des prothèses de plus en plus fines, des corrections de corps, comment on rectifie des oreilles écartées, comment on atrophie, on transforme, etc. Donc tous ces films, on voit... Comment on agit sur le corps? On tranche, on ouvre, on recoud, on corrige, on retire, on rajoute, on met un petit appareil pour que ça fonctionne mieux, etc. Et je trouvais qu'en regardant ces films-là, qui sont là diffusés dans une perspective critique, avec des interviews, avec une interrogation d'artistes, il y a un peu ce climat à la Voicecrack, où ils sont sur une table de dissection, où ils sont en train de disséquer cette zone un peu trouble entre l'homme et la machine, entre l'homme et ses machines. Et qu'est-ce que ça sonne, comment on fonctionne ensemble. Donc il y a ce côté un peu interrogation sur l'organologie, qui est un concept dont on a parlé ici pour expliquer comment fonctionnent souvent ces musiques-là. C'est plus simplement des instruments qu'on actionne dans un rapport technique de virtuosité ou de savoir-faire manuel. On est de plus en plus dans des pénétrations de chants qui se rencontrent et qui fonctionnent ensemble. Et donc, c'est une manière de faire la musique, mais c'est aussi une manière de penser les choses. Et l'organologie n'est pas neutre. Je lisais récemment des extraits de Ernst Jünger, mais aussi mis en perspective par Didier Huberman, où il exalte l'héroïsme humain en lien avec la technologie qui lui permet une puissance extraordinaire, etc. Donc Ernst Jünger était quand même un écrivain plutôt nazi, franchement carrément nazi. Là, on est dans une organologie de fermeture, de domination du monde par la technologie. Avec Voicecrack, on est dans des organologies d'ouverture, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et de sortir de ce dualisme qui oppose l'homme et la machine, mais de dire il y a des terrains d'entente, forcément. On est colonisé par les machines. Il n'occulte ni le côté aliénation, ni le côté construction de soi positive, construction d'un nouveau corps, d'une nouvelle zone d'action, d'une nouvelle manière d'être, etc. Donc, Voicecrack est tout à fait très intéressant pour avoir cette réflexion aussi.
Je crois, Pierre Rumtime, que vous vouliez nous parler d'un bouquin encore en rapport avec cette thématique.
Oui, c'est intéressant de noter que ce n'est pas une réflexion qu'on fait de manière isolée ici pour Archipel en disant « Tiens, comment parler de ces musiques-là? Tiens, on pourrait peut-être inventer ce terme organologie, expliquer comme ceci, etc. » Non, il y a effectivement beaucoup de gens qui pensent à ça et donc beaucoup de livres qui sortent. Il y a beaucoup de penseurs qui essaient maintenant de sortir des antinomies, des dualismes qui opposent les choses, l'opposé masculin, féminin, l'esprit, le corps, etc. Et donc il y a effectivement un livre qui est sorti, je ne dirais pas que c'est un livre extraordinaire, mais enfin, qui montre comment les choses commencent à se penser, à se dégager, qui est un livre de Thierry Hockey qui s'appelle « Cyborg philosophie, pensée contre les dualismes ». Et donc, il part de l'histoire du cyborg, qui est c'est Robocop, le cyborg le plus connu donc, dans le cinéma hollywoodien. Cet assemblage de robots mécaniques, de technologies et de restes d'organismes humains, donc des compétences, des savoir-faire qui se complètent pour devenir une sorte de surhomme. Et je crois que Robocop finit quand même par être réenvahi par les incertitudes humaines, les affres des sentiments, etc. Donc il retrace un peu cette histoire-là dans le cinéma, mais aussi dans la pensée cybernétique. Il développe aussi toute l'approche de ce qu'est devenu le cyborg dans la pensée féministe américaine, où ça a joué un rôle très important. Donc des intellectuels du féminisme comme Donna Haraway se sont emparés du concept de cyborg pour sortir justement du dualisme homme-femme. On n'est pas là pour penser une identité de la femme uniquement par la manière dont l'homme pense les choses, dont l'homme pense notamment les technologies et la manière dont on doit se soumettre aux technologies qui ont leur côté machinique mais machiste aussi. Et donc on va commencer à penser les choses en introduisant d'autres trucs que le mec face à nous, mais le cyborg, donc les machines, les prothèses, et penser à un autre type d'identité. Donc c'est très intéressant de voir comment ils connectent le cyborg. Donc il est parti du cyborg classique hollywoodien, et puis dans son livre, ça devient autre chose, ça devient une sorte de joker, ça devient une sorte de concept un peu ectoplasmique qui permet de déconstruire tous les dualismes, tous les contraires sur lesquels s'est arbouté beaucoup la modernité et continue à évoluer beaucoup la pensée. Je vous proposerai peut-être de lire 2-3 extraits pour voir comment fonctionne le bouquin, mais après peut-être un autre passage de Voicecrack, qui je pense est très dynamique, très tonique, une espèce de feu d'artifice comme ça, de circuits autant électroniques que neuronaux, entre la jubilation de trouver de nouveaux espaces et quelque chose qui se délite, qui crame. Et donc on est aussi là dans une ambivalence, dans un paradoxe, dans une ambiguïté, mais où le dualisme est réduit aussi et dépasse aussi, parce qu'il y a cette jubilation, cette destruction qui va vers autre chose.
Thank you.
un autre extrait de cet album de Voice Crack que nous a apporté Pierre Emptin ce soir. Album de 98 intitulé Below, Beyond, Above. Alors Pierre Emptin, vous nous parliez d'un bouquin, d'un livre. Est-ce que vous le recommandez, ce livre alors?
Oui, c'est pas une merveille, hein, mais c'est un livre intéressant parce que ça documente l'information sur ces musiques-là. Et il faut dire que ces musiques-là, entre guillemets, sont très peu documentées dans les magazines. Et en général, c'est pas dans les magazines qu'on apprend à comprendre les musiques. Il faut les mettre en relation avec d'autres champs de connaissances, la philosophie, la sociologie, l'esthétique, etc. Et donc ce livre-là apporte des choses intéressantes. C'est Cyborg Philosophie de Thierry Hoquet, c'est au Seuil. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est de développer ce qu'il appelle le concept de stuff, STU2F, par lequel il désigne le je ne sais quoi qui compose ou constitue la trame ou la substance des êtres, par-delà la division esprit-corps ou machine-organisme. Et je trouve que cette musique de Voice Crack en 1998 donne déjà à entendre tout ce qui se passe dans ce stuff, tel que le développe le philosophe. Donc, c'est des choses intéressantes pour comprendre la musique, pour essayer d'élargir le champ et de comprendre aussi que les musiques ne sont pas simplement pour s'amuser à un certain moment, mais justement pour mieux comprendre l'autre et le monde.
Merci Pierre Emptin, on se retrouve la semaine prochaine.
Au revoir.